voir donc le côté que cette personne divine, éternelle, est devenue homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Incarnation, c'est devenir chair. Les Allemands disent Menschwerdung, c'est ça?
Yeah.
C'est plus explicite que incarnation, donc c'est devenir homme. Alors, propose ici cinq versets, cinq passages qui déclarent l'incarnation. Alors, chacun à sa manière, mais qui sont explicites que Dieu est devenu homme. Donc on a Jean 1, qu'on a déjà abordé Jean 1, verset 14. Et la parole devint chair. Donc c'est cette parole dont on a parlé, cette personne qui est appelée la parole, éternelle, divine, distincte, qui est devenue chair. Elle est devenue un homme. 1 Timothée 3, verset 16, nous dit que Dieu a été manifesté en chair. Philippiens 2, qu'on a mentionné tout à l'heure aussi avec l'expression « en forme de Dieu », nous dit que il s'est anéanti lui-même. Il s'est anéanti lui-même. C'est-à-dire, c'est une expression qui est synonyme de « il est devenu homme ». Et c'est une très belle expression, très profonde, « il s'est anéanti ». Il est devenu rien. Être un homme, pour lui, ça voulait dire devenir rien, s'anéantir. Et on a Hébreux 2 qui nous dit d'une autre manière que puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, nous, en tant qu'hommes, nous avons part au sang et à la chair, il est dit, lui aussi, semblablement y a participé. Et un peu plus loin, verset 17, il est dit qu'il a été rendu semblable à ses frères. Et Hébreux 10, verset 5, c'est une citation de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, du psaume 40, où il est dit, où le Seigneur dit, « Tu m'as formé un corps. » Le Seigneur qui s'adresse à Dieu, tu m'as formé un corps. Donc, en particulier, ces cinq versets affirment que le Seigneur est devenu un homme. On va revenir là-dessus. Donc, l'incarnation, c'est le fait que Dieu a été manifesté en chair. Et juste cette expression, Dieu a été manifesté en chair, ça sous-entend deux choses, que il existait auparavant. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a été manifesté si avant il n'existait pas. C'est très logique. Donc ça implique qu'il existait antérieurement, et que son existence était cachée. Il a été manifesté. Celui qui existait, mais d'une manière cachée, a été manifesté. Et ça, c'est, quand on pèse ce que ça veut dire, c'est merveilleux. Ce Dieu éternel, caché, qu'on ne pouvait pas connaître, s'est révélé. Il s'est fait connaître. Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est déjà, premier point, le fait, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence humaine. Que le Dieu éternel, infini, se fasse homme, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est la révélation qui nous le dit, mais ce n'est pas tellement quelque chose qu'on peut expliquer. C'est trop, ça dépasse notre intelligence. Et c'est un sujet d'adoration. Souvenez-vous, premier diapo, un sujet d'adoration. Mais ce qui est peut-être encore plus beau, ou comment dire, quelque chose qui en rajoute, déjà le fait est merveilleux, mais quand on réfléchit à la manière, il a été manifesté en chair, mais de quelle manière? Et il y a ce verset de Luc 2, verset 12, où les anges disent aux bergers, vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Donc quand on pense que c'est de cette manière que le Dieu éternel est devenu homme, c'est quelque chose qui nous plonge dans l'adoration. Ce Dieu si grand, si puissant, si majestueux, qu'il vienne dans le monde sous la forme d'un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et où est-ce qu'il est né de cette manière-là? À Bethléem, en Judée. Et j'ai noté ceci que j'ai lu. À l'époque où le Seigneur Jésus est né dans le monde, il y avait un empire sur la terre. Et il y avait une cité impériale, la cité de l'empereur, c'était Rome. Il n'est pas venu à Rome. En Judée, il y avait un royaume et il y avait une ville royale, c'était Jérusalem. Il n'est pas venu à Jérusalem. Il est venu dans la ville de Bethléem. Et qu'est-ce qu'il est dit de Bethléem en Michée chapitre 5, je le cite, que c'était une ville, il est dit d'elle, elle était petite entre les milliers de Juda. Donc il n'est pas venu dans la cité impériale, il n'est pas venu dans la cité royale, il est venu à Bethléem, la ville qui était petite entre les milliers de Juda. Donc ça nous parle de sa venue dans l'humilité. Et dans cette ville de Bethléem, on connaît l'évangile, il y avait une hôtellerie. Et il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'a même pas eu droit à l'hôtellerie, à l'auberge. Et il est né dans une crèche, c'est-à-dire dans une étable. Il est né dans une étable. Peut-être. Et donc ça montre en fait la manière, comme il dit, la manière de l'incarnation. Donc c'est vraiment, ça nous parle de tout l'abaissement et l'humilité. Et que le Seigneur est venu vraiment dans des conditions les plus humbles possibles. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment toucher nos cœurs. Qu'une telle personne soit venue, Dieu manifesté en chair, mais de quelle manière ? Quel est le but de l'incarnation, ou un des buts de l'incarnation ? On va y revenir après. Mais Jean 1, toujours, très riche, Jean 1, nous dit ceci. « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. » Et ensuite, un peu plus loin, « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Dans ce verset 18, 14 et 18, on a, on pourrait dire, les deux grands buts en rapport avec l'incarnation. Premier, habiter au milieu des hommes. Par l'incarnation, on a cette révélation du désir de Dieu de venir habiter au milieu des hommes. Et ce n'est pas seulement quelque chose de passager. On le sait par d'autres versets de la Bible que c'est le grand propos de Dieu. Et qu'on sait que dans l'avenir, Dieu habitera au milieu des hommes pour l'éternité. Et cela, ça se discerne déjà avec l'incarnation. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Et quel était l'autre nom de Jésus? On l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, retenons et admirons ce grand but divin que Dieu veut être avec les hommes. Il ne veut pas être loin des hommes, il veut être au milieu des hommes. Il veut bénir les hommes par sa présence au milieu d'eux. Et lié à cela, personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. En même temps que Dieu veut habiter avec nous, les hommes, il y a, lié à cela, il y a le but que Dieu veut se faire connaître aux hommes. Donc, Dieu veut habiter au milieu des hommes, Dieu veut être connu des hommes. Et cela, ça se voit déjà dans l'incarnation. Je ne précise pas, on en mentionnera tout à l'heure, mais bien sûr, le Seigneur Jésus, il est devenu un homme pour mourir sur la croix, pour que nos péchés puissent être pardonnés, expiés. Et ça, c'est nécessaire pour que Dieu puisse habiter au milieu des hommes et que Dieu soit connu des hommes. Il faut que la question des péchés soit réglée. Donc la croix était absolument nécessaire pour cela. Mais à travers l'incarnation, on voit le but ultime de Dieu d'habiter au milieu des hommes et d'être connu des hommes. Ce point, quatrième point que j'ai appelé la gloire de sa personne préservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a eu l'incarnation, même s'il est devenu un homme, il reste, il est toujours Dieu, le Fils de Dieu. Le fait qu'il devienne un homme n'annule pas la vérité qu'il est Dieu. D'accord ? La gloire de sa personne divine est préservée. Il reste Dieu tout en devenant un homme. Et par exemple, on a toujours ce Jean 10, 30 qui est remarquable, c'est quand est-ce que le Seigneur Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ?» C'est alors qu'il était un homme. Donc en tant qu'homme, il a pu dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc ça montre que en devenant un homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. D'accord ? Et deuxième ligne. J'aime beaucoup cela. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? La même personne qui dit deux choses très différentes. La même personne dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est la déclaration, on l'a vu tout à l'heure, de sa divinité. Mais la même personne, elle dit « Moi, je me confierai en Dieu ». Donc on voit la même personne qui exprime sa divinité et cette même personne, elle parle aussi de se confier en Dieu, comme un homme. C'est un homme qui se confie en Dieu. C'est pas le Seigneur en tant que fils de Dieu qui dit « Moi, je me confierai en lui ». C'est en tant qu'homme. Et ça, c'est la beauté unique de l'incarnation, c'est que la même personne est à la fois Dieu et à la fois homme. De manière indissociable. C'est une même personne, il n'y a pas deux personnes, il y a une personne, mais cette personne, elle est à la fois Dieu et à la fois homme. Elle peut dire donc c'est deux choses, mais c'est la même personne qui parle. Et un autre point, on a cité Hébreux 10, verset 5. Il est dit, en, tu m'as formé un corps. Seigneur qui dit, tu m'as formé un corps. Et simplement pour dire que jamais dans la Bible, le Seigneur est présenté comme étant une créature. Même quand il est parlé de lui comme homme, comme celui qui est devenu homme, il n'est jamais dit qu'il a été créé, mais il a été formé. D'accord ? Il n'est pas une créature. Il n'est jamais appelé une créature. Il est formé. Alors là, quand on dit ça, normalement, il y a le témoin de Jéhovah qui lève la main et qui dit « Ah, c'est pas vrai !» Il y a un verset qui dit qu'il a été créé. C'est lequel verset que le témoin de Jéhovah va citer ? Je ne sais pas. C'est Colossiens 1, verset 15, 16. Colossiens 1, verset 15 ou 16, qui dit 15. Il est premier-né de toute création. Alors, ça, c'est si on discute, il ne faut peut-être pas le faire, je ne recommande pas de discuter avec les témoins de Jéhovah parce que c'est très. Ils vont citer souvent ce verset, il est premier-né de toute création. Ils disent donc, il est né en premier, donc c'est une créature, il est premier-né de toute création, c'est une créature qui a été créée en premier, avant tout le monde. Alors, vous vous rappelez, il y avait un slide précédent où il était parlé du premier-né. En fait, effectivement, le Seigneur, il est appelé premier-né à différents endroits, mais qu'est-ce que ça veut dire être premier-né ? Dans la Bible. Dans la Bible, il y a un verset qui nous montre ce que ça veut dire. C'est dans le psaume 89, je crois. Je regarde mes notes. Ouais. Psaume 89, verset 27. Non, oui, verset 27. C'est Dieu qui dit, moi aussi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est au sujet de Salomon, je crois. Donc Dieu dit, je ferai de Salomon le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Donc en fait, c'est un verset qui est très important parce qu'il nous montre ce qu'est être premier-né au sens biblique. Au sens biblique, être premier-né, ce n'est pas une question de temps, d'antériorité, ce n'est pas celui qui est né avant les autres, mais le premier-né, c'est celui qui est au-dessus des autres, qui a un rang plus élevé que les autres, un honneur plus élevé que les autres, une dignité plus élevée que les autres. Donc, quand le Seigneur est présenté comme le premier-né, et il est appelé comme ça dans plusieurs versets, ce n'est pas qu'il est né en premier par rapport aux autres, mais c'est qu'il a le rang le plus élevé par rapport aux autres dont il est parlé. D'accord ? Donc, quand Colossiens 1, verset 15, premier-né de toute création, ça veut dire que quand il est entré dans la création, je ne dis pas qu'il a été créé, il est simplement, on pourrait dire, entré dans la création, en devenant un homme, eh bien, en devenant un homme, il est le premier-né. Il est celui qui a la dignité, le rang le plus élevé par rapport à tous. D'accord ? Donc, il n'est pas une créature, il n'est pas une création, il est le premier-né de la création, ce qui est différent, et il est formé. D'accord ? Une nuance. Et puis, un autre point en rapport avec l'incarnation, c'est, j'ai noté, sa perfection morale a été préservée. Ça veut dire quoi ? Et verset de Luc 1, verset 35, c'est l'ange qui parle à la Vierge et qui lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Donc, on sait comment le Seigneur Jésus est né, comment il a été conçu comme homme. Il a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. D'accord ? C'est ce qu'il est annoncé là dans ce verset. Donc le Saint-Esprit a couvert Marie, est venu sur Marie. Le Très-Haut, la puissance du Très-Haut a couvert Marie de son ombre et elle a conçu dans son ventre. Donc, ça nous montre que le Seigneur Jésus, comme homme, il n'a pas été conçu comme tous les hommes par l'intermédiaire d'une relation entre un homme et une femme. On est tous issus d'un père et d'une mère qui ont eu une relation pour qu'on soit conçu. Eh bien, le Seigneur, il n'a pas été conçu de cette manière. Et ça, c'est un fait qui est remarquable. C'est qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de volonté humaine engagée, impliquée dans la conception de l'enfant Jésus. C'est l'action seule du Saint-Esprit. D'accord ? Et ce qui a pour conséquence que le Seigneur Jésus est appelé saint. Nous, quand nous naissons, nous ne sommes pas saints. Nous avons déjà le péché en nous. Nous sommes des pécheurs. Comme dit David dans le psaume 51, « Dans le péché, ma mère m'a conçu. » Nous sommes tous conçus de cette manière-là. « Dans le péché, ma mère m'a conçu. » Le Seigneur, il a été conçu différemment de tous les hommes. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est la source de son existence comme homme sur la terre, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a agi en Marie. Il n'y a pas de volonté humaine engagée dans sa conception. Donc, Adam, en Genèse chapitre 1 et 2, il a été créé innocent. Tous les hommes qui sont nés après Adam sont nés dans le péché. Mais le Seigneur, il a été ni créé comme Adam innocent, ni comme tous les hommes qui ont été conçus dans le péché, il a été conçu dans la sainteté par l'Esprit Saint. Donc ça le distingue de tous les hommes. Voilà quelques points sur l'incarnation. S'il n'y a pas de questions... Donc, le Seigneur, devenu homme à travers l'incarnation, et donc est un homme, véritablement un homme. Et on voit là, on le sait, normalement, les hommes ne discutent pas. Il n'y a pas de remise en question que Jésus-Christ est un personnage historique. Normalement, ce n'est pas contesté. Que c'est quelqu'un qui a existé il y a environ 2000 ans, même quand on regarde notre chronologie, on parle d'être en 2025 après Jésus-Christ. Donc il semble que pour tous les hommes, ce soit une évidence incontestable que Jésus-Christ a existé comme homme sur la terre. Je dis ça, l'année dernière, j'ai pas lu le livre, mais il y a un philosophe français qui passe assez souvent dans les médias. Je ne vais pas dire son nom parce qu'on ne peut pas faire de la publicité pour ce genre de personnes, qui a écrit un livre et qui parle, je crois, du mythe de Jésus, où il veut démontrer que Jésus n'a jamais existé et que c'est un mythe qui a été formé dans l'esprit des hommes et qui s'est propagé au cours des siècles. Mais c'est quelque chose qui est absolument faux et à mettre de côté. Et il paraît évident à tous, et notamment par la chronologie, que Jésus-Christ est un personnage historique indiscutable. Mais il y a différents différents buts à l'incarnation, au fait que le Seigneur soit devenu un homme. Et là, on en a listé quelques-uns. Donc, le fait que le Seigneur soit devenu un homme, c'était pour accomplir la rédemption sur la croix. Donc, il devait mourir. Et pour mourir, il devait devenir homme. Il est devenu homme pour se rapprocher des hommes en amour. Il est devenu homme pour montrer ce qu'est un homme parfait. Il est devenu homme pour éprouver de la compassion, pour avoir compassion pour nous maintenant. Il est devenu homme pour accomplir des promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament. Il est devenu homme aussi pour devenir un nouveau centre et la tête du corps de Christ. Mais ça, ce sont des aspects que je ne veux pas approfondir, je le mentionne. C'est un sujet très riche de se poser la question, pourquoi Jésus-Christ est devenu un homme? Et il y a différentes raisons. Un homme, dans la Bible, c'est décrit, il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qui parle de esprit, âme et corps. Un homme est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et quand on regarde dans les évangiles, on voit que le Seigneur Jésus avait un esprit, une âme et un corps. Je montre différents versets. On ne va pas s'arrêter sur chacun de ces versets, mais ce sont des versets qui nous montrent tous, que ce soit d'abord pour l'esprit, pour l'âme ou pour le corps, qu'il est évident, explicite, que le Seigneur Jésus avait un esprit, une âme et un corps. Et c'est important d'insister sur ces trois aspects, qu'il ne faut pas se représenter le Seigneur Jésus comme simplement Dieu qui est venu dans un corps d'homme, comme s'il avait juste une carapace d'homme, un extérieur d'homme, et qu'à l'intérieur il était Dieu. C'est plus que ça. Quand il est dit il est devenu un homme, c'est qu'il a reçu un esprit, une âme et un corps. Donc, il est vraiment entré dans l'humanité comme nous tous, à l'exception du péché, on verra plus tard, mais profondément, entièrement un homme, esprit, âme et corps. Donc là, il y a des versets qui nous parlent clairement de son esprit, de son âme et de son corps. Mais, en fait, il peut être aussi intéressant de réfléchir en rapport avec la vie du Seigneur et ses attitudes, de voir en fait qu'il y a de ces attitudes qui montrent qu'il avait un esprit, qu'il avait une âme, sans qu'il soit dit que telle ou telle attitude est en rapport avec son esprit et son âme. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre là, peut-être pas. Le Seigneur avait un esprit. Qu'est-ce qui nous montre que le Seigneur avait un esprit? Pas seulement les versets qui disent qu'il avait un esprit, mais par exemple, Luc nous dit qu'il était rempli de sagesse et qu'il avançait en sagesse. Il n'est pas parlé de l'esprit, mais c'est évident que quelqu'un qui avance en sagesse ou qui est rempli de sagesse, c'est quelque chose qui est lié à son esprit. Donc ça, c'est un témoignage à son humanité. Il est dit, et on le voit beaucoup dans Luc notamment, que le Seigneur, c'est un homme de prière. Qu'est-ce que ça exprime? Un homme de prière. C'est-à-dire un homme qui avait un esprit. Et ayant cet esprit, il vivait dans la dépendance de Dieu, ce qui s'exprimait à travers la prière. Lors du dernier souper, quand il a institué la scène, le Seigneur a commencé à dire « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je meure. » Qu'est-ce que cela traduit? Qu'ils disent « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. » C'est qu'il avait un esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des versets qui montrent la réalité de ce qu'était un esprit d'homme en lui. Au jardin de Gethsémané, il est dit qu'il a été dans l'angoisse du combat, mais on voit qu'il s'est soumis à la volonté du Père. Homme obéissant, il a dit « Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Qu'est-ce que cela traduit? Cette obéissance et cette angoisse qu'il avait avant l'obéissance ou dans l'obéissance, ça exprime son humanité et son esprit. Donc voilà des témoignages indirects qu'il avait un esprit d'homme. Si vous discutez toujours avec des témoins de Jéhovah ou autres, encore une fois, ne le faites pas, ils sont les spécialistes pour sortir des versets. Et notamment ces versets-là. Ils vont dire, mais il n'est pas Dieu, regardez ces versets. Alors, effectivement, ce sont des versets qui sont remarquables. Par exemple, en Matthieu 20, il dit de quelque chose, ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est à mon Père. En Marc 13, il dit, ça, je ne le connais pas, mais il n'y a que mon Père qui le connaît. En Jean 5, il dit, moi, je ne peux pas faire cela, il n'y a que mon Père qui peut le faire. Et en Jean 14, verset 28, il dit, mon Père est plus grand que moi. Alors là, il y en a qui profitent de ces versets, qui disent, mais regardez, il ne peut pas être Dieu, parce qu'il a dit ça. Mais il faut comprendre que ces versets-là, ces choses-là, il les exprime en tant qu'homme, en tant que celui qui s'est abaissé, qui est devenu un homme, un serviteur. Et plutôt que de nous faire douter, je trouve que ces versets, ils nous font adorer encore plus. De voir qu'il a pris cette forme de serviteur, que cette personne divine, elle se soit abaissée dans une attitude de serviteur au point de dire, ça, ce n'est pas à moi de le savoir. Ça, ce n'est pas à moi de le faire. Ça, ce n'est pas à moi de le donner. Et mon Père est plus grand que moi. Donc, ne nous laissons pas troubler par ces versets, mais au contraire, apprécions-les parce qu'ils expriment quelque chose de l'humanité du Seigneur Jésus. Mais comme on a vu tout à l'heure, sa divinité est incontestable. D'accord ? Donc on a vu que le Seigneur est devenu un homme entièrement, esprit, âme et corps, mais qu'il a été conçu par le Saint-Esprit et qu'à sa naissance, l'ange a dit qu'il serait saint. Et il y a divers témoignages qui nous disent qu'il n'avait pas de péché. Pierre dit « il n'a pas commis de péché ». Jean dit, il n'y a point de péché en lui. Paul dit, il n'a pas connu le péché. Et Hébreux 4 nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Donc ça, ce sont différents versets qui nous montrent qu'en rapport avec sa vie, en rapport avec sa personne, il n'y avait pas de péché. Non seulement il n'a pas commis de péché, mais il n'y avait pas de péché en lui. Et quand il est dit il n'a pas connu le péché, il ne faut pas comprendre ça comme nous, voilà, si on dit je ne connais pas telle chose, ça veut dire je ne sais pas ce que c'est. Évidemment que le Seigneur savait, était conscient de ce qu'était le péché, mais quand il est dit il n'a pas connu le péché, ça veut dire que dans toutes ses pensées, dans toutes ses réflexions, il n'y avait pas de péché. On pourrait dire dans la façon dont son esprit vivait, il n'y avait pas de péché. Dans ses pensées, dans ses raisonnements, pas de péché. Il n'a pas connu le péché. Et juste un petit point sur Hébreux 4, 15, qui nous dit « Il a été tenté en toute chose comme nous, à part le péché. Je mentionne juste ce point, attention aux traductions que l'on utilise de la Bible, parce que ce verset, par exemple dans la version second, qui est généralement plutôt une bonne version, je ne critique pas, mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'est traduit « Il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre le péché ». Et ce n'est pas la traduction exacte. La traduction exacte, c'est « sans le péché » ou « à part le péché ». Parce que quand on dit « sans commettre le péché », ça n'exclut pas que le péché était en lui. Et j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était un croyant chrétien, qui m'a expliqué que le Seigneur, effectivement, n'a pas commis de péché, mais qu'il aurait pu parce qu'il avait le péché en lui. Je lui ai dit non, regarde ces versets. Et il m'a dit, ah non, Hébreux 4, c'est sans commettre le péché. Et en fait, j'ai vu que dans cette traduction, c'était comme ça, mais sans commettre le péché, c'est mal traduit. C'est le mot commettre, il n'y est pas dans le texte original et il faut traduire sans péché. C'est-à-dire, pas seulement qu'il n'a pas commis, mais qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Vous voyez la nuance ? Pour le Seigneur, de devenir un homme, ça a été c'était synonyme de souffrir. Et il y a ces deux versets, par exemple, il y en a d'autres. Quand il est dit en Ésaïe 53, il a été homme de douleur. Pour lui, qui est Dieu éternellement, en tant que Dieu, il n'y a pas de souffrance. Il est le Dieu bienheureux. Mais devenir un homme, ça veut dire, pour lui, ça voulait dire devenir homme de douleur, de souffrance. Il a connu la souffrance en devenant un homme. Lui qui ne la connaissait pas. Et étant donné qu'il a connu la souffrance, nous dit Hébreux 2, il est capable d'avoir de la sympathie pour nous qui connaissons de la souffrance. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il l'a vécu lui-même. Aussi, une pensée qui est belle en rapport avec le fait qu'il soit homme, c'est qu'il est dit, il a appris l'obéissance. Et Philippiens 2 dit, il est devenu obéissant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est beau. En tant que Dieu, on ne peut pas dire qu'il est obéissant. Dieu commande, Dieu a autorité, Dieu n'obéit pas. En devenant un homme, il a appris l'obéissance. C'était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Non pas qu'il était désobéissant, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas en étant Dieu. En devenant un homme, il a appris l'obéissance. Il est devenu obéissant. Aussi, un autre point en rapport avec le Seigneur devenu homme, c'est qu'il est devenu homme pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il ne cessera jamais d'être un homme. Et je mentionne quelques versets, en fait, qui nous parlent, qui sont en rapport avec le Seigneur Jésus une fois qu'il est monté au ciel. Donc il a quitté cette terre. Qu'est-ce qu'il est dit de lui ? Acte 1, les anges parlent de lui aux disciples en disant « ce Jésus ». Donc celui qui est monté au ciel, il l'appelle encore Jésus. Jésus, c'est son nom d'homme. Mais une fois monté au ciel, il est toujours Jésus. En acte 22, c'est quand il se révèle à Paul depuis le ciel. Qu'est-ce qu'il dit à Paul ? Il dit « je suis Jésus, le Nazaréen que tu persécutes. » Donc, il est dans la gloire du ciel et il s'appelle encore Jésus. Moi, je suis Jésus. Philippiens 2 nous dit que dans l'avenir, au nom de Jésus, vont se ployer tout genou, des êtres célestes, etc. Au nom de Jésus. Hébreux 2 nous dit que par la foi, nous voyons Jésus. En Apocalypse 22, c'est le Seigneur qui parle encore du ciel et qui dit « Moi, Jésus ». Donc tous ces versets-là, ils nous montrent que même encore dans le ciel, dans la gloire du ciel, il se nomme Jésus. Il est, il reste et il restera toujours Jésus. Cet homme humble qui est venu sur la terre. Et ça, c'est un sujet aussi d'émerveillement et d'adoration. Que quand nous serons avec lui, nous verrons Jésus. À la fois le Fils éternel de Dieu et à la fois cet homme qui est venu sur la terre. Là, c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu. Et pour terminer, deux colonnes à gauche, ce sont des choses qui parlent de lui en tant qu'homme. Et à droite, des choses qui nous parlent de lui en tant que Dieu. Et on peut lire, on ne va pas tout citer maintenant, mais on lit des choses qui nous touchent en rapport avec son humanité sur la gauche, mais de se dire que cette même personne, cette personne-là qui a été, par exemple, fatiguée, qui a été lassée, qui était endormie dans la barque sur un oreiller tellement elle était fatiguée, qui a été giflée, qui a été crucifiée, cette même personne, c'est celle dont il nous est dit les choses qui sont à droite. Il existait avant la fondation du monde. Quand il est venu, il a guéri de la lèpre, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité des morts, il a commandé au vent et aux vagues, et il a dit les différentes choses qu'on a vues. Donc, ça c'est quelque chose de merveilleux, de voir que toutes ces choses, si différentes, elles concernent la même personne. Jésus, l'homme Jésus, est celui qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu en même temps. Pour répondre à la question de Benjamin, il y a ce verset de Matthieu 11 qui nous dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est que ce mystère de l'humanité du Seigneur Jésus, de l'incarnation du Seigneur Jésus, ce mystère que le Fils de Dieu est devenu un homme, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas sonder. Nous ne pouvons pas le comprendre pleinement avec nos esprits, on ne peut pas l'expliquer, mais on le reçoit et on le croit. Il n'y a que Dieu qui peut le sonder pleinement. C'est ça que ça veut dire. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il n'y a que le Père qui peut sonder entièrement et apprécier la personne de son Fils. Dieu devenu homme. Et en rapport avec ce sujet, on peut aussi mentionner ce verset. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Qui aurait pu imaginer l'incarnation avant qu'elle ait eu lieu? Qui aurait pu penser à ça, imaginer, projeter ça? Personne. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et je remets mes trois images du début. Donc, c'est un sujet, j'espère, qui nous touche tous. C'est un sujet d'adoration. C'est un sujet à faire connaître à d'autres. Et c'est un sujet à défendre. La gloire du Seigneur comme homme, homme parfait, homme sans péché, Dieu, Fils de Dieu, Nous devons veiller et défendre cette vérité si elle est attaquée.
Le ciel a mis.
Okay.